France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
À l'été 1518, certains habitants de Strasbourg se sont mis à danser sans raison apparente, au point que les autorités ont dû intervenir et demander leur avis aux médecins et aux clergés. Que sait-on vraiment de cette fièvre dansante, dont la réalité des faits a largement été transformée a posteriori par des chroniqueurs ou des médecins comme le célèbre Paracelse ? S'agissait-il d'une maladie neurologique ou bien d'un phénomène culturel spontané qui nous échappe ? Science Chrono mène aujourd'hui une enquête complexe autour de cette épidémie de danse qui tient les experts en haleine depuis plus de 5 siècles. Et pour parler de cette fièvre dansante, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Elisabeth Clemens. Bonjour.
Bonjour, monsieur Beauchamp.
Vous êtes maître de conférences émérite en histoire médiévale et moderne au sein du laboratoire Art, Civilisation et Histoire de l'Europe de l'Université de Strasbourg. Et vous êtes la co-autrice du livre 1518, La fièvre de la danse, paru aux éditions des Musées de Strasbourg. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Science Chrono. Avant de rentrer dans la danse, pour reprendre le titre du roman de Jean Tellet consacré à cette épidémie de danse de Strasbourg, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous partirons sur le littoral de la mer du Nord, à deux pas de Dunkerque, et on verra qu'au Moyen-Âge, de très importants travaux d'aménagement du littoral ont été réalisés pour gagner du terrain sur la mer. Mais avant de partir au Nord, on se dirige dans l'Est, à Strasbourg, à l'époque où elle était une ville libre rattachée au Saint-Empire germanique et où, à l'été 1518, certains habitants ont été pris d'une fièvre de danse. On va voir avec vous, Elisabeth Clemens, pourquoi cette épidémie dansante a intrigué et continue d'intriguer et comment elle illustre la difficulté à comprendre rétrospectivement un événement qui touche aussi bien aux faits culturels qu'à l'histoire médicale. Et pour inaugurer cette émission, nous allons écouter une archive précieuse. Il s'agit d'un texte datant du 23 juillet 1518, en plein cœur de cette épidémie de danse. Ce texte est extrait des délibérations de la commission nommée par le magistrat de Strasbourg qui a interrogé les parents dont les enfants ou l'épouse se sont mis à participer à la danse collective. La lecture vous est faite par Joseph Schlegel, c'est l'archive de Science Chrono.
Le vendredi, après la Sainte-Marie-Madeleine, en présence de Claude Böcklin, Caspar Hofmeister et Martin Herlin, délégués à cet effet, on a pris les décisions suivantes en ce qui concerne les pauvres personnes qui dansent actuellement. Ils ont délibéré de faire savoir aux bourgeois dont les enfants participent à la danse de s'occuper d'eux, de les garder chez eux ou alors de les faire participer aux frais. On a convoqué Stadenjerg. Il déclare être un pauvre valet, il ne peut garder son fils chez lui mais demande qu'on le garde avec les autres ou qu'on le conduise chez le saint. Il se conformera à la volonté du magistrat, selon ses possibilités. On a également convoqué Balthasar Bürghofer, maître d'école résident derrière les franciscains, et on l'a interrogé à ce sujet. Il dit que son fils Bernard a regardé les danseurs et a commencé à danser ce matin, alors qu'il devait le seconder pour faire classe aux enfants. Il l'a calmé jusqu'après-midi. Après 14 heures, il a voulu aller danser, il a dû l'y conduire. Il est prêt à payer les frais pour son fils, car il n'a ni femme ni valet et il ne peut abandonner ses écoliers. On a interrogé le journalier Anton Esslinger, le mari d'Apollonia, qui participe à la danse au poil des charpentiers. Il déclare qu'il revenait de la moisson quand il a trouvé sa femme en train de sauter dans la chetoue. Il lui a demandé à 3 reprises comment elle se sentait. Il pensait qu'elle était à nouveau atteinte du mal de Saint-Marsolf. Il l'a calmée. Puis, quand les pauvres gens sont arrivés avec une cornemuse, elle s'est levée et les a suivis. Il est disposé à emmener sa femme chez le saint. Il est pauvre. Hans Eckhardt de Bruxelles est mendiant. Il a une fille nommée Apolline parmi les danseurs. Il déclare être un pauvre vieillard cassé. Si c'est le souhait du magistrat, il veut bien emmener sa fille chez le saint. Comme il s'agit d'un pauvre homme impotent, la commission lui a fait connaître la volonté du magistrat et lui a permis de rentrer chez lui. On a demandé à l'économe de l'hôpital d'être prêt pour 7 heures, avec 3 chevaux et une voiture, et d'attendre les instructions.
Voilà un extrait, Elisabeth Clemens, que vous nous avez suggéré, dont vous nous avez suggéré la lecture. Ce texte est particulièrement précieux parce que, en cette matière d'épidémie dansante, il y a peu de sources disponibles. Quelles sont les sources qu'on qualifie de première main concernant cet épisode survenu en 1518 à Strasbourg ?
En fait, il y a deux catégories de sources. Il y a d'abord des sources administratives, réglementaires, qui émanent du magistrat de la ville de Strasbourg, et on a aussi des chroniques contemporaines. Alors, pour les sources administratives, on a bien sûr l'interrogatoire que vous venez de lire en partie, des parents dont les enfants ou l'épouse participent à la danse, mais on a aussi des instructions données par le magistrat de Strasbourg pour envoyer justement ces personnes qui dansent à Saverne, donc un lieu de pèlerinage précis qui était dédié à Saint-Guy, qui est le patron de cette maladie, qui pouvait l'envoyer mais qui aussi pouvait en guérir. On a par ailleurs une correspondance entre le magistrat de Strasbourg et l'évêque au sujet des personnes qui dansent, puisqu'à un moment donné, les autorités religieuses se sont inquiétées de ce qui se passait. On a aussi des conseils donnés par les médecins aux magistrats, puisque ce dernier va se tourner évidemment vers les médecins pour savoir comment agir. Et on a également des ordonnances du magistrat pour interdire les danses. Hein. Donc un des moyens mis en œuvre, ce sera l'interdiction. Et pour finir, on a également des injonctions du magistrat de Strasbourg au trésorier des confréries qui leur demande de s'occuper de leurs membres atteints par la maladie. Donc ça, c'est tout le volet administratif réglementaire. Mais on a également des chroniques contemporaines. Par exemple, les annales de Sébastien Brandt, qui était secrétaire de la ville de Strasbourg. Alors, c'est un personnage bien connu, un humaniste réputé, juriste de formation, qui a été également professeur à l'université de Bâle. Et on a une autre chronique, celle de Hieronymus Gebwiller, qui a dirigé l'école du grand chapitre de Strasbourg depuis 1509.
Si on s'en tient justement à cette liste de sources de première main, que peut-on dire, Elisabeth Clemens, du déroulé de l'épidémie de danse survenue à Strasbourg en 1518? Comment tout cela, finalement, a-t-il commencé et s'est-il terminé?
Alors, pour commencer, vous avez lu donc le passage le plus important, le plus intéressant. C'est en fait vers la fête de la Sainte-Marguerite, donc au 15 juillet, nous rapporte Brandt, qu'une effroyable maladie, dit-il, la danse de Saint-Guy, s'est propagée. Et on sait alors, c'est toujours Brandt qui dit, qu'une cinquantaine de personnes dansaient jour et nuit, ce qui faisait peine à voir, ajoute-t-il. Alors, on a une autre chronique, d'après Hieronymus Gebwiller. Lui, il dit qu'il a vu une femme danser pendant 6 jours d'affilée. Donc, un enthousiasme collectif, une danse qui en entraîne d'autres. Et finalement, on a l'impression que ça se fait par tout simplement le fait de voir et d'entendre ce qui se passe. Voilà.
Est-ce qu'on a une idée du temps que ça a duré, du nombre de personnes qui ont été impliquées? Puisque là, on a déjà un petit panel de 5-6 personnes. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a une estimation du nombre de gens qui se sont mis à danser?
Alors pour ça, on en est réduit à croire ce que nous disent donc les contemporains. Brandt parle d'une cinquantaine de personnes qui dansaient jour et nuit. Alors on a d'autres chroniques qui bien sûr vont monter en... Il y en aura 200 pour d'autres, mais ce sont des chroniques plus tardives. Mmh. Donc on a beaucoup de mal à faire la part des choses. Disons, on est quand même plutôt enclin à croire ce que les contemporains décrivent. Alors voilà, on ne sait pas beaucoup plus. On sait également que tout ça, ça va se terminer au plus tard, donc fin septembre.
Ce qui fait quand même deux bons mois de danse en continu, ce qui n'est pas rien. Ces danseurs, ils ne sont pas seuls, ils ne dansent pas sans musique. Là aussi, ils sont accompagnés par des musiciens qui jouent en continu.
Voilà, donc enfin... Au moment où l'épidémie éclate, il est question de cornemuses, effectivement, de gens qui font de la musique et qui en entraînent d'autres. Alors ça aussi, ça va être un point important pour le magistrat, parce qu'il va défendre certains instruments de musique, entre autres timbales, tambours et fifres. Donc des instruments qui sont très entraînants, hein, qui sollicitent la danse, qui entraînent à la danse. Mais le magistrat va les défendre très rapidement.
Ces instruments, ils échauffent un peu les esprits. Vous parlez de la danse et j'évoquais aussi en introduction de cette émission, Elisabeth Clemens, le fait que cette épidémie de danse est à la frontière entre le fait médical et le fait culturel. On peut peut-être parler de la danse justement en ce début de XVIe siècle. Quelle était l'importance de cette pratique et quel rôle ça jouait d'un point de vue social, on va dire?
Alors, on danse beaucoup. Au Moyen-Âge, au début de l'époque moderne, alors on danse dans les auberges, dans les poêles de corporation, mais aussi en plein air, dans la rue, même après une rude journée de travail. Mais il faut néanmoins distinguer deux sortes de danse. les hautes danses et les basses danses. Les basses danses sont des danses à pas glissés, elles sont pratiquées par la bonne société. Les hautes danses sont celles où l'on saute et où l'on gesticule, ce sont celles du peuple, connues par de nombreuses gravures. Évidemment, ces danses-là sont considérées comme désordonnées, vulgaires, inconvenantes. Et la danse de Saint-Guy se rattache à ce dernier groupe de danse.
Mmh. Il y a donc une certaine ambiguïté intrinsèque dans cette pratique de la danse. Vous parlez de la danse de Saint-Guy, d'une maladie qui était nommée comme telle, la danse de Saint-Guy. Est-ce que d'autres épidémies de danse avaient déjà eu lieu auparavant, à Strasbourg ou ailleurs ?
Oui, effectivement, on a connaissance d'autres épidémies. Alors, épidémie, bien sûr, avec des guillemets. Hein. Et, alors, on a, par exemple, dans les comptes de la ville d'Aubernay, pour l'année 1463, une dépense d'un sou, alors je cite, donnée aux malades venus de Saint-Jean-de-Bassel qui dansaient. Donc, cette mention nous rappelle que, fréquemment, déjà, les personnes affectées de manie dansante se déplacent, n'hésitant pas à l'occasion à parcourir des distances importantes. Et ceux qui arrivent à Aubernay en 1463 avaient parcouru environ 80 kilomètres depuis Saint-Jean-de-Bassel. Mais il n'est pas impossible qu'ils venaient plus loin. En effet, cette même année 1463, une épidémie de danse de Saint-Guy est attestée à Metz, donc à une centaine de kilomètres de Saint-Jean-de-Bassel. On sait aussi que quelques années plus tôt, en 1452, un cas de danse de Saint-Guy s'est produit à Zurich, en Suisse. Et puis, on a des mentions relativement nombreuses pour une épidémie de danse qui frappe plusieurs villes du Rhin moyen en 1374. Et là aussi, avec un grand phénomène d'entraînement.
Quelles étaient les réactions face à ces fièvres et ces manies dansantes ? Comment réagissaient les autorités ? Quels étaient finalement les protocoles mis en place ?
Alors en fait, la ville de Strasbourg va très vite prendre le taureau par les cornes. Le jour même où elle a convoqué les parents ou conjoints de danseurs, elle va promulguer des instructions pour envoyer les personnes qui dansent à Saverne, plus exactement au Rollenstein, qui est une grotte dédiée à Saint-Guy, un lieu de pèlerinage dédié à Saint-Guy. Et elle va mettre tous les moyens possibles à leur disposition. L'économe de l'hôpital doit fournir 3 chevaux et une voiture, celui de l'œuvre Notre-Dame, 2 voitures et 6 chevaux. Ensuite, elle va interdire les danses publiques sous peine d'amende, en exceptant toutefois les danses lors des mariages ou des premières messes, à condition de ne pas utiliser de timbales ni de tambours, mais des instruments à cordes. Ensuite, en troisième point, La ville va faire dire des messes dans toutes les collégiales et églises paroissiales de la ville. Et pour finir, elle va s'adresser aussi aux médecins qui vont lui préconiser l'utilisation de l'eau d'orge, en fait une décoction d'orge, réputée combattre la chaleur du foie. Les médecins recommandent également du pain ou de la bouillie d'orge ou d'avoine. Tout ça pour combattre la chaleur. Parce que cette maladie, pense-t-on, est liée à la chaleur du moment, hein, on est au mois de juillet, et à la constellation des astres. Par contre, les médecins sont formels, ils déconseillent et condamnent les boissons fortes comme le vin.
Il faut à nouveau pas échauder les esprits. Vous avez évoqué 2 formes d'autorité intellectuelle et morale pour cette époque, le clergé, l'Église et les médecins. Que dit l'Église dans un premier temps de cette épidémie ? Est-ce qu'elle s'y intéresse ? Est-ce qu'elle apporte son avis ? Ou bien est-ce qu'elle finalement délègue toute responsabilité aux autorités de la ville de Strasbourg ?
Alors en fait, l'attitude de l'Église est très intéressante parce que bon, au bout d'un moment, évidemment, elle cherche à savoir ce qui se passe. Hein. L'évêque est le seigneur, entre guillemets, spirituel de la ville de Strasbourg. Et la ville de Strasbourg répond, écoutez, les gens se sont mis à danser, les médecins nous disent que c'est une maladie naturelle. Réponse de l'évêque auxiliaire, si c'est une maladie naturelle, qu'on la traite avec des remèdes naturels. Donc à aucun moment, il n'y a une suspicion de diable ou de sorcellerie. Il n'en est absolument pas question dans cette histoire. Et l'Église a finalement une attitude très moderne par rapport à ce problème. Mais l'évêque auxiliaire ajoute, pour qu'on ne me reproche pas de ne rien faire, moi aussi je vais demander qu'on dise des messes dans les différentes églises de la ville.
Et puis il y a aussi, voilà, ces maladies sont associées, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Elisabeth Clemens, à des saints, la danse de Saint-Guy, on parle aussi du feu de Saint-Antoine. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces pathologies liées à certains saints, qui vont impliquer un pèlerinage dans des lieux de culte à des saints?
Alors effectivement, à l'époque médiévale, les saints, comme les divinités antiques, avaient un double visage. Hein. Ils pouvaient provoquer la maladie et guérir. Et puis bon, chacun était spécialisé dans un domaine. Alors vous avez évoqué le feu de Saint-Antoine, donc là c'est Saint-Antoine du désert, Saint-Antoine l'ermite, qu'on invoquait pour une maladie appelée l'ergotisme, donc liée à l'ergot de seigle, et plus tard pour toute forme de gangrène. Saint-Guy, lui, il aurait été martyrisé en 304 en Sicile, alors qu'il était encore enfant ou tout au plus adolescent. Et au fil du temps, son histoire réelle a été embellie par des récits fabuleux, en particulier des détails sur son supplice. On l'aurait notamment fait bouillir dans un chaudron d'huile, et c'est dans ce chaudron qu'il est le plus souvent représenté dans l'art. Son culte va se développer en Italie, au Moyen-Âge, et il se répand en France et en Allemagne à partir du 9e siècle, du fait que ses reliques ont été transférées d'abord à Saint-Denis, puis à Corvey, en Saxe. Son culte est devenu si populaire, particulièrement en Allemagne du Sud, qu'il a été placé au nombre des 14 saints auxiliateurs. Et en fait, sa spécialité, c'était de protéger contre les animaux venimeux, contre les morsures de chiens enragés, les piqûres de serpents, et en Italie du Sud, contre la tarentule.
La tarentule qui a donné son nom à la tarentelle, qui est cette danse justement qu'on doit pratiquer pour se défaire du venin de la tarentule.
Tout à fait. Et c'est comme ça, sans doute, que par analogie, on lui a également conféré donc le soin des gens atteints de cette danse enthousiasmante qui entraîne beaucoup de monde.
On a parlé du coup, Elisabeth Clemens, de cette réaction de l'Église qui se tient à distance. Parlons de l'implication des médecins. Vous avez déjà évoqué les traitements qu'ils préconisaient, traitements à la fois médicinaux, on va dire, et très simples, du bouillon d'orge, du pain, pas de vin. Il y avait aussi ce traitement musical où on retirait certains instruments des orchestres de ces musiciens qui accompagnaient les danseurs. On peut caractériser finalement ce contexte médical aussi à Strasbourg, qui est bien particulier. C'est une ville qui est assez dynamique du point de vue médical et qui donc propose tout de suite les services de médecins compétents.
Oui, c'est vrai qu'en 1518, au moment où l'épidémie éclate, la ville de Strasbourg connaît un dynamisme sans précédent dans le domaine médical, tout particulièrement dans l'édition d'ouvrages. Par exemple, Hieronymus Braunschweig, qui publie différents ouvrages, dont l'un est consacré à la chirurgie, en 1497, un autre à la syphilis, et plusieurs travaux sur l'art de distiller. En 1517, Hans von Gersdorff, lui aussi chirurgien, publie le Feldbuch der Wundarznein, donc un traité de chirurgie, qui a connu une très grande diffusion à l'époque. Il a été édité 8 fois à Strasbourg, entre 1517 et 1542, une fois à Francfort et 3 fois à Amsterdam. Et cette même année 1517, les Strasbourgeois ont l'occasion d'assister à un événement extraordinaire, puisque pour la première fois, une dissection de cadavres a lieu en public. Par ailleurs, l'organisation sanitaire de la ville connaît également d'importants changements. Depuis 1515, un médecin est rattaché à l'hôpital de Strasbourg, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc la décision du magistrat montre l'importance qu'acquiert la médecine au début de l'époque moderne. Dans ce contexte, il n'est donc pas étonnant que des médecins aient été consultés par la ville de Strasbourg lors de l'apparition de la danse de Saint-Guy.
Cette épidémie de danse, comme on l'appelle aujourd'hui, Elisabeth Clemens, certains ont dit qu'elle avait fait des morts, qu'elle avait impliqué des milliers de personnes. On est d'accord que tout ça, ce sont des récits a posteriori. Si on doit faire un bilan épidémiologique de cette épidémie, comment ça s'est arrêté? Est-ce qu'il y a eu des morts? Est-ce qu'il y a eu des conséquences plus graves? Ou bien est-ce que ça s'est arrêté très simplement?
Alors en fait, on a très peu de choses précises sur la fin. Alors, les sources contemporaines n'évoquent jamais de morts. Par contre, les chroniques plus tardives, elles n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Hein. Par exemple, Speklin, qui est né en 1536 et qui est architecte ingénieur de la ville de Strasbourg, avec assez de loisirs pour écrire une chronique, dans laquelle il évoque justement les événements de 1518, mais en dramatisant. Alors par exemple, premier point, pour lui, il y a eu beaucoup de morts. alors que les sources contemporaines n'en mentionnent jamais. Il évoque aussi des chaussures rouges qu'on aurait mises aux malades, donc à Saverne, quand ils étaient allés en pèlerinage. Chaussures qui auraient été bénies, mais rien de tel dans les sources contemporaines. Troisième point, il prétend aussi qu'on avait dressé des tribunes sur deux places de Strasbourg, alors que le magistrat a tout fait pour maintenir ces danses à l'intérieur, et même pour les supprimer, puisqu'il envoie les danseurs au Wallenstein. Et du coup, on voit là à quel point donc Speklin a déformé la réalité.
Pourquoi est-ce que ce Speklin en question, qui est né 18 ans après les faits, a-t-il souhaité tordre cette réalité-là? Quel intérêt y avait-il à grossir le trait d'une certaine façon?
Alors je crois que c'est pour rendre les choses beaucoup plus intéressantes, c'est un peu les fake news d'aujourd'hui, hein. Je crois qu'on peut faire un parallèle, et il n'est pas le seul, hein. Pour toutes les chroniques qui viennent après, effectivement, on se rend compte qu'on grossit le trait. Il y a beaucoup plus de gens qui dansent, on en arrive à 200, il y a des morts, il y a des choses, voilà. Qui suscite bien sûr un intérêt.
Elisabeth Clemens, il y a aussi un autre grand nom que j'évoquais au début de cette émission qui est accolé à cette épidémie de danse de Strasbourg. C'est celui du médecin et alchimiste suisse, d'origine suisse, Paracels. Que vient faire Paracels dans cette histoire et comment lui aussi a-t-il transformé d'une certaine façon la réalité de cette épidémie de danse?
Alors lui, quand même, il a une explication qui est intéressante. Pour lui, celui qui simule un certain comportement qu'il prétend véritable déclenche une telle force persuasive que les symptômes deviennent vrais et que la maladie se confirme. Et dit-il, c'est la cause de bien des maladies, non seulement de la danse de Saint-Guy, mais d'innombrables autres maladies. En fait, quelque part, il suggère que la danse de Saint-Guy est une maladie d'ordre psychologique.
Qui est d'une certaine façon un effet d'entraînement quasiment psychosomatique, où tout d'un coup, parce qu'on voit une foule se mettre à danser, on va suivre le mouvement.
Effectivement, un phénomène d'entraînement collectif. Mmh.
Et lui, Paracels, il invente aussi même le patient zéro de cette épidémie de danse, une certaine Frau Trophäa. Alors, on va se dire tout de suite la vérité, elle n'a pas existé, cette Frau Trophäa.
Non, elle n'a pas existé. D'ailleurs, Trophäa est un nom totalement improbable à Strasbourg à cette époque. Et on s'est rendu compte qu'en fait, elle dérive d'un mot grec. Il a forgé ce mot d'après un mot grec qui signifie tourner, donc qui indique la danse. Mais effectivement, que Frau Trophäa a fait cela, entre autres, parce qu'elle était contrariée, etc., là, ça ne tient pas la route, quoi.
Elisabeth Clemens, on se parle de cette épidémie de danse qui est survenue en 1518, donc il y a plus de 5 siècles. Et cette épidémie a fasciné en fait les médecins au fil des siècles. Alors, elle incarne aussi d'une certaine façon la façon dont on fait une histoire de la médecine. Comment justement cette histoire-là incarne-t-elle cette évolution du diagnostic a posteriori?
Effectivement, quand on s'intéresse aux maladies en histoire, on heurte un certain nombre de problèmes, hein, entre autres la dénomination de la maladie et son évolution au fil du temps. Donc tout ça, c'est le problème des diagnostics rétrospectifs. Et je crois que la danse de Saint-Guy est un cas d'école dans la mesure où le terme a été appliqué à de nombreuses maladies. Alors pour les uns, il s'agit de l'épilepsie. Bachmann l'explique par l'ergotisme, donc dont on a parlé tout à l'heure.
L'ergot de seigle, on peut peut-être rappeler l'effet de cet ergot de seigle et de voilà ce qu'on connaît de ce phénomène.
Oui, alors l'ergot de seigle, donc ça provient d'un champignon qui pousse sur le seigle et qui contient entre autres du LSD. Donc on a des hallucinations, des visions. Ceux qui ont entendu parler de l'épidémie de Pont Saint-Esprit en 1951 se souviennent sans doute que tous les gens touchés avaient pris du pain dans la même boulangerie. Mais il y a eu 7 morts. Hein. Les gens se croyaient poursuivis par des tigres, sautaient par les fenêtres, etc. Donc voilà, donc ça c'est une des explications. On y voit aussi éventuellement l'encéphalite. Et ensuite, au fil du temps, au XVIIe siècle, Sydenham y voit un problème neurologique. Évidemment, au XIXe siècle, un psychiatre, Witkowski, y voit quelqu'un qui était sujette, la première femme qui s'est mise à danser aurait été sujette à des attaques de nerfs.
À l'hystérie.
Pardon ?
À l'hystérie également.
Exactement, voilà. Mmh. Il dit d'ailleurs, il parle, il dit avec quelques autres hystériques, elle aurait entraîné des enfants, des faibles d'esprit, des oisifs, des vauriens et des imposteurs. C'est très important aussi parce qu'on voit que ce sont les autres, hein, ceux qui sont un peu différents, qui sont touchés par ce mal. Alors des ethnologues, eux, y ont vu un culte de possession, d'autres encore un phénomène d'hystérie collective. Donc vous voyez qu'au fil du temps, les interprétations ont été diverses et variées.
Ces interprétations, elles n'ont pas donné de réponse ferme et définitive aux causes de cette fièvre de danse.
Non, je crois que le débat est toujours ouvert et finalement c'est ce qui est intéressant d'une certaine manière. Il reste effectivement des questions, il en reste beaucoup. Alors pour moi, c'est une question primordiale. Aujourd'hui, peut-on vraiment dire qu'il s'agit d'une maladie ou tout simplement d'un phénomène d'enthousiasme collectif, hein, comme l'a suggéré Kelina Godman, professeure des arts du théâtre à King's College à Londres. Et à ce sujet, j'aimerais citer un fait qui s'est produit en 1457 à Wissembourg. À l'extrême fin de l'année, alors qu'il y avait beaucoup de neige et qu'il faisait très froid, 1117 enfants, dont certains étaient très petits, allant deux par deux et chantant des chants religieux, traversent la ville. Ils sont en route pour le Mont Saint-Michel, donc pour un pèlerinage. Et en les voyant, une quarantaine de garçons de Wissembourg se joignent à eux. Alors, comme pour la danse de Saint-Guy en 1518, il y a un phénomène d'entraînement collectif suite à une double sollicitation visuelle, la procession à travers la ville, auditive, les chants. Or, dans ce cas, ça viendrait à l'idée de personne de parler de maladie. Donc, ça, c'est une des premières questions. L'autre question, mais qui étaient vraiment ces danseurs? Nous ne connaissons l'identité que de 5 d'entre eux. Ce qui est intéressant, c'est que dans les sources, quand on parle d'eux, on dit les pauvres gens. Mais les pauvres gens, dans le sens, on les plaint. On les plaint parce qu'ils ont attrapé cette maladie. Alors, comme on l'a vu, sur les 5 cités, 4 au moins font référence à leur pauvreté, là, au sens économique. Quant à l'instituteur, au maître d'école, non, là, ce n'est pas le cas.
Mmh. Alors, on a parlé donc de ces questions encore sans réponse. Moi, j'ai aussi une question, c'est à partir de quand on arrête d'assister à ce genre de phénomène? Est-ce que la danse de Strasbourg de 1518 est le dernier cas recensé ou bien est-ce qu'il y en a encore plus tardivement?
Alors, pour la danse de Saint-Guy, c'est le dernier que je connaisse, mais il y a encore des danses de Saint-Jean. Alors, Saint-Jean était également invoqué contre ce mal, et il y a tout près de Strasbourg, enfin pas très loin de Strasbourg, donc il y a un pèlerinage à Bissheim, à Saint-Jean, où les gens se rendaient, mais pas du tout dans les mêmes conditions. Ce sont des gens qui, avant la Saint-Jean d'été, un mois avant, se sentaient pas bien, étaient déprimés, et ils savaient qu'une fois qu'ils pourraient danser à la Saint-Jean d'été, donc au pèlerinage de Saint-Jean, ils seraient guéris pour le reste de l'année. Alors là, la danse n'est pas la maladie, mais le moyen de guérir. C'est quelque chose de très différent de la danse de Saint-Guy, mais il y a quand même des ressemblances puisqu'on fait appel à la danse.
Notre discussion touche déjà à son terme. Je vous remercie beaucoup, Elisabeth Clemens, de nous avoir éclairé sur cette mystérieuse fièvre dansante de Strasbourg. Je rappelle le titre du livre magnifiquement édité dont vous êtes la co-autrice, intitulé 1518, La fièvre de la danse, paru aux éditions des musées de Strasbourg. Merci encore. Thank you. Last Dance par Scratch Massive dans Science Chrono sur France Culture. Après avoir parlé d'une épidémie de danse à la fin du Moyen-Âge, on va remonter un peu dans le temps de ce Moyen-Âge et on va aller prendre le grand air du littoral de la mer du Nord.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Quand on pense au polder, on pense à ces terrains gagnés sur la mer aux Pays-Bas ou en Belgique, mais on ne pense pas forcément tout de suite au littoral français. Pourtant, en France aussi, cette technique d'assèchement des sols a été pratiquée au Moyen-Âge, près de l'actuel Dunkerque. Ce sont des hectares et des hectares de terre qui ont patiemment été gagnés sur les estuaires en quelques siècles, permettant aux humains de s'installer et de cultiver durablement ces nouvelles terres agricoles du puissant comté de Flandre. La construction actuelle du futur grand port maritime de Dunkerque est une occasion inespérée de fouiller préventivement ces vastes zones de polders méconnus. Une campagne récente a permis d'apporter de l'eau au moulin de cette archéologie des polders encore pionnière et de nous livrer des informations particulièrement riches sur l'occupation des lieux, grâce entre autres à des vestiges architecturaux et mobiliers. Bonjour Pauline Lomel.
Bonjour.
Vous êtes archéologue à l'INRAP et vous êtes la coordinatrice scientifique des opérations de fouilles de 2024-2025 sur le site du Grand Port Maritime de Dunkerque. Des fouilles dont on va bien sûr décrire en détail les résultats. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de venir nous faire donc découvrir les enjeux de cette archéologie des polders pour bien saisir à la fois le caractère hors norme, non seulement de ces aménagements du passé, mais aussi des campagnes de fouilles qui se sont déroulées sur le littoral dunkerquois et pour qu'on se rende compte des difficultés propres à cette archéologie des polders, j'aimerais que vous nous aidiez à nous inscrire dans ce paysage bien particulier de ce littoral de la mer du Nord. Est-ce que vous pourriez nous faire un panorama, déjà nous décrire l'environnement dans lequel vous travaillez?
Bien sûr. Actuellement, on travaille sur des grandes zones agricoles, hein, donc on est quasiment sur plus de 1500 hectares qui ont pu être investigués avec le diagnostic archéologique. Donc voilà, actuellement, on est sur des vastes zones agricoles hein, qui sont du coup en cours de, comment dire, d'investissement et d'industrialisation avec l'installation portuaire et notamment les grandes entreprises qui vont venir se construire autour du coup du grand port.
Ça n'a pas toujours été des zones agricoles.
Ça n'a pas toujours été des zones agricoles, effectivement. Dans le courant du Moyen-Âge, principalement sur la période du Moyen-Âge, il faut s'imaginer qu'on va être sur un estuaire marin. Donc ça va être un paysage qui va être semblable à la baie du Mont-Saint-Michel ou du coup à la baie de Somme. Donc on va être sur un espace avec des entrées maritimes quasi quotidiennes. On va avoir des espaces dunaires, on va avoir des espaces de marais salants, des espaces maritimes. Voilà, on est soumis complètement à la marée et vraiment dans un espace littoral pur comme on peut l'imaginer aujourd'hui.
Quels effets a cette intrication entre la mer et la terre dans cet espace-là sur la géologie, sur la morphologie du paysage ?
Alors, on est vraiment sur une géologie assez particulière. Donc, en fait, on est ce qu'on appelle dans la plaine maritime flamande. Donc, c'est une entité géologique qui va de Calais et qui va remonter jusqu'à la Belgique, voire aux franges de la Hollande. Et on est sur un paysage assez particulier avec des incursions marines, des grands estuaires marins qui vont vraiment venir façonner complètement le paysage. Très longtemps, on a considéré qu'on avait des incursions, des grandes transgressions maritimes qui ont empêché les installations humaines. Et du coup, nos opérations ont tendance à prouver le contraire aujourd'hui et qu'on avait de l'installation de manière très ancienne.
Cette incursion maritime récurrente, ça a un effet aussi sur la richesse ou la pauvreté du sol. C'est pas du tout des terres arables, des terres qu'on peut cultiver.
Non, il faut s'imaginer qu'on est vraiment sur un espace salin. Au final, on est quasiment sur des zones où on pouvait voir une plage comme on l'imagine aujourd'hui, avec du fou, du sable, des zones de vaseuses, et du coup un arrière qui va être plutôt marécageux, avec du coup des incursions maritimes qui vont se faire un peu plus rares, plutôt aux grandes marées, donc qui laissent des espaces de marais salants, comme on peut l'imaginer aujourd'hui. Voilà, effectivement, la baie de Somme, les baies du Mont-Saint-Michel, c'est vraiment les paysages auxquels on peut se rapprocher le plus.
Il y a deux mots qu'on peut décrire, définir, c'est le slick et le shore, que sont ces deux termes-là?
Alors, on est vraiment sur des termes très particuliers. Du coup, le score, au final, va être cette partie. On va être sur toute cette partie qui va être soumise aux incursions marines, plutôt des marées de vives eaux, donc c'est des grandes marées. Donc, il va être pas soumis aux incursions maritimes quotidiennes. Et la slick, où là, du coup, on va être plutôt sur une zone qui va connaître une entrée maritime quotidienne.
Alors, si ces régions étaient marécageuses et finalement peu cultivables, est-ce qu'elles étaient pour autant inhabitées jusqu'au Moyen-Âge?
Alors, vraiment, tout début du Moyen-Âge, on n'a pas beaucoup d'informations, parce que justement, on essaye de trouver les traces les plus anciennes. Donc, par exemple, sur la période mérovingienne, pour l'instant, on a très peu d'indices à savoir ce qui se passe exactement sur ce secteur-là. C'est vraiment la période carolingienne qui va nous intéresser, où on a les premières implantations humaines. Donc, on va avoir des traces, du coup, de zones où on va faire paître du mouton. Mmh. Donc, au final, on va avoir des restes de bergerie, par exemple, des bercarias. Et après coup, on va avoir vraiment de l'habitat en fait qui va venir se développer sur ces zones-là.
Et auparavant, donc pas du tout. Moi, j'ai entendu parler des morins, de cités lacustres. Tout ça m'a fait un peu rêver, mais c'est vraiment.
Alors là, c'est toute la complexité de la plaine maritime flamande, c'est que du coup, on va avoir des espaces dunaires qui globalement vont être occupés de manière un peu plus ancienne. Donc, on a réussi à déterminer qu'on peut avoir déjà des occupations à la période romaine. De manière beaucoup plus anecdotique, on va avoir des occupations proto-historiques, bon, plus la période gauloise globalement. Mais on a vraiment, c'est toute cette complexité qui fait qu'il y a des endroits, on va les trouver très haut, très proche du littoral, très proche du bord de mer, sur les espaces dunaires. Et quand on va commencer à rentrer dans les zones plus estuariennes, du coup plus soumis à la marée, où là, du coup, on n'aura pas du tout de traces humaines avant quasiment la période carolingienne.
Alors, cette période carolingienne, pourquoi est-elle aussi importante dans l'aménagement de ce littoral-là ? Qu'est-ce qui se passe concrètement à ce moment-là, historiquement ?
Du coup, historiquement, c'est assez intéressant, parce qu'on a vraiment cette montée en puissance des comtés, des genre de limite de petites principautés qui vont se mettre en place. On a des comtés relativement puissants, donc ce qui nous concerne, on va être chez les comtes de Flandre, qui vont
Baudouin,
prendre beaucoup
bras
de pouvoir.
De fer, donc,
exactement. Qui va prendre beaucoup de pouvoir et qui va du coup un peu s'accaparer ces zones littorales qui lui reviennent de droit au final, qui sont inoccupées. Et donc du coup, lui, il va en profiter pour commencer à faire paître des moutons et du coup, vraiment essayer de développer toute l'économie qu'il y a derrière, notamment l'économie du drap de laine, hein, où du coup, le drap de laine est une denrée qui s'échange énormément dans le courant du Moyen-Âge et qui peut être très recherchée.
Alors, comment se développe progressivement cet aménagement du littoral ? Est-ce que ça part de cette région d'Incarquoise ou bien est-ce que déjà au nord de ce comté de Flandre, il y a déjà des premières tentatives de poldérisation ? On va bien sûr décrire ce principe-là et cette ingénierie-là, mais comment tout cela commence-t-il ?
C'est vraiment au tout début de la période carolingienne où on va vraiment voir des premiers aménagements se mettre en place, notamment sous la forme du coup de grands fossés drainants qui vont venir assécher au final les terres et permettre justement des premières implantations. Globalement, on observe ça sur vraiment toute la zone, principalement la zone d'Incarquoise, la zone qui est plus autour de Calais est déjà plus ou moins asséchée. On est vraiment sur un système de fermeture de la plaine maritime, donc plus un espace dunaire en cours de formation et de stabilisation. C'est vraiment le Dunkerquois qui va montrer ce genre d'implantation et de systèmes de polderisation.
Parmi les plus anciens, du coup. Alors, quand on parle de polder, pour certains d'entre nous, et pour certaines d'entre nous, les cours de géo sont un peu loin. Donc, on va peut-être rappeler ce que c'est et comment, finalement, étape par étape, on peut parvenir à gagner du terrain sur la mer.
C'est vraiment tout un travail qui est énorme au final, surtout pour cette période. Il faut s'imaginer qu'on fait absolument tout à la main. Étonnamment, on s'est rendu compte qu'ils ont une très grande connaissance de leur territoire et notamment du territoire littoral, qui devait être quand même très peu facile d'accès. Au final, ce qu'ils vont vraiment mettre en place, c'est creuser des grands fossés, du coup, qui vont être parallèles au final à l'estuaire et du coup qui va commencer à limiter les entrées maritimes. Et au fur et à mesure qu'on va commencer à drainer la terre et limiter les entrées maritimes, donc la marée quotidienne ne viendra plus forcément jusque-là, globalement le terrain va s'assécher et donc on va pouvoir conquérir comme ça au fur et à mesure de la terre et reculer. En fait, on va faire que ça, on va faire un premier fond digue. Une fois qu'on a réussi à stabiliser l'ensemble, on va faire un deuxième fond digue et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait globalement forcé l'estuaire à se refermer quasi naturellement au final.
Ça se fait pas en un jour tout ça ?
Ça se fait pas en un jour, ça s'est fait en plusieurs décennies, voire plusieurs siècles.
Ok, alors on passe là d'une zone humide littorale de transition donc qui sert finalement pas, qui est pas trop utile, à une zone de terre agricole durable qui permette une rente foncière, donc c'est pas rien. À qui va profiter finalement cette poldérisation là ?
C'est vraiment au comte de Flandre que ça a profité, qui du coup, lui, va permettre d'un point de vue économique déjà, effectivement, d'avoir beaucoup plus de terres, et du coup, va également permettre l'installation de grandes fermes, qui forcément va lui rapporter un petit peu plus de revenus.
Quel type de pratique agricole ?
Et par la suite, au final, on va avoir le développement de ports, de grandes villes fortifiées qui vont venir s'implanter sur les bords, comme Gravelines, par exemple, ou Dunkerque, évidemment. Qui vont être du coup des villes et des grands ports assez connus et sur lesquels effectivement il va y avoir beaucoup de marchandises qui vont passer et donc forcément plus de richesses et donc plus de pouvoir pour le comte de Flandre effectivement.
Quelles sont les pratiques agricoles réalisées sur ces zones de polder ? Est-ce qu'il y a des cultures spécifiques, des types d'élevage spécifiques ?
Alors du coup, il y a un type d'élevage effectivement assez particulier. Donc on va principalement effectivement faire paître du mouton, ce qui est un animal qui s'adapte assez facilement au final à ces zones de marais salants ou de zones en cours de stabilisation. Les fouilles archéologiques ont montré que, mine de rien, on a quand même pas mal de bovidés sur place aussi, et un petit peu d'équidés, chose auxquelles on ne s'attendait pas il y a encore une dizaine d'années sur les premières opérations. Donc là, justement, il y a un gros travail qui est fait par les collègues, notamment les archéozoologues, qui travaillent justement sur toute cette domestication et l'adaptation des animaux sur le littoral. Ce qui est hyper intéressant. Et d'un point de vue culture, on va être principalement sur du lin, du chanvre, qui sont des cultures qu'on fait encore actuellement dans le nord de la France, qui vont bien s'adapter au milieu humide et qu'on va pouvoir utiliser par la suite pour également faire du textile.
Quelle est la durée de vie de ces aménagements-là réalisés donc à l'époque carolingienne ? Est-ce qu'il y a quand même des aléas qui vont les mettre à bas et qui vont obliger les sociétés à reconstruire ces polders ?
Oui, exactement. Alors du coup, sur les fossés digues, on a remarqué depuis quelques années, donc c'est notamment mes collègues Laurent Descott et Mathieu Lançon qui ont mis ça en avant, on a ce qu'on appelle des ombiliques de brèche. Donc en fait, c'est des ruptures au niveau des fossés digues, alors qui va être créé soit par un épisode tempétueux, une marée plus importante, qui va globalement emporter une partie du fossé et qui va créer une déformation assez profonde de l'environnement et qui va tout emborder, qui peut créer des cratères quasiment de 25 mètres de diamètre, ce qui est quand même très conséquent.
Colossal, ouais.
Et du coup, on s'est rendu compte que l'homme réagit très vite et en fait va englober ces ombiliques de brèche au sein des digues. Donc ils vont recreuser des digues et ils vont venir les imbriquer complètement dans leur nouvel espace au final et s'en servir comme des espaces d'eau douce. Du coup, une mare, tout un espace qu'ils peuvent utiliser au sein de l'habitat.
Pauline Loël, en préparant cette émission, j'ai découvert un autre mot, c'est wateringue. et ce qui est fascinant, c'est que ce wateringue-là va avec toute une sociologie qui est propre à ces espaces de polder et qui est très très intéressante parce que ces aménagements-là implique aussi une adaptation politique et une organisation politique autour de ces restructurations du territoire.
Complètement. Les wateringues, c'est vraiment des choses intéressantes. Donc globalement, les wateringues, on va être sur des fossés qui vont être très conséquents, qui vont être quand même très très larges, entretenus. On considère que les wateringues qui existent encore aujourd'hui chez nous dans le nord de la France, il y en a certains qui ont leur apparition dans le courant du Moyen-Âge, peut-être même qui remontent quasiment à la période carolingienne et sont entretenus très très longtemps. Et effectivement, c'est vraiment un nerf de la guerre, c'est d'entretenir les fossés. Et ces fameux wateringues qui sont très conséquents parce qu'ils vont permettre de drainer en profondeur les terres et même encore aujourd'hui.
Alors en France, on est pendant longtemps passé à côté de ces polders médiévaux. Pourquoi est-ce qu'on s'y intéressait pas ou est-ce qu'on estimait qu'il n'y avait pas ce genre d'aménagement aussi important sous nos latitudes ?
Alors effectivement, je pense que le littoral, on a mis très longtemps à s'y mettre du fait de sa complexité aussi. Potentiellement le manque d'aménagement aussi pendant très longtemps. Il y a eu quelques tentatives à la fin des années 90, au début des années 2000, avec quelques petites fouilles sporadiques qui sont vraiment des petits spots de fouilles. Faut vraiment attendre le début des années 2000, la mise en place de plus grands travaux, qui fait que par le biais préventif, on a pu vraiment travailler en profondeur sur la question du littoral du nord de la France. Et qui nous apporte beaucoup, beaucoup de questions, de problématiques.
Du coup, c'est un plaisir de pouvoir recevoir une pionnière, puisque l'archéologie des polders est une archéologie, je le disais en introduction de cette émission, assez pionnière. Ça consiste en quoi ? Quels sont les principes fondamentaux de cette archéologie des polders, ses missions et ses contraintes ?
Alors, les contraintes, elles sont nombreuses. Parce qu'on va pas se mentir, c'est des terrains assez difficiles d'accès. Du fait déjà, aujourd'hui, par exemple, en termes d'altitude, on est très peu élevé. Au final, on va être sur une altitude qui va être entre 2 et 3 mètres NGF. Par rapport au niveau de la mer actuelle. Mmh. Donc, au final, on est très peu élevé. Qui fait que c'est des terrains sur lesquels on peut intervenir principalement en printemps, à l'été. À partir de cette période-là, c'est inaccessible totalement. On a beaucoup de choses à apprendre. Du coup, on est obligé d'imbriquer beaucoup, beaucoup de spécialités au sein de l'archéologie littorale. Alors, un gros travail, effectivement, avec les géologues, qui nous permettent vraiment de comprendre dans quoi on vient s'implanter. Du coup, je pense que vous avez vu dans les quelques rapports que vous avez pu feuilleter, on fait un gros travail aussi en amont avec, du coup, la géophysique qui nous permet de savoir exactement sur quoi on va travailler. Des zones sableuses, des zones argileuses, des zones plutôt humides. Et après, on fait un gros travail aussi avec tous nos collègues du paléo-environnement qui, eux, nous apportent énormément d'informations. Parce que le fait, effectivement, de travailler dans les milieux humides fait que, du coup, les éléments organiques sont très bien préservés. Mmh. Et on peut avoir beaucoup, beaucoup d'informations nouvelles, notamment sur les cultures, sur le textile, sur la pêche, sur énormément de problématiques.
Ça nous donne des détails, même sur des dimensions culturelles très, très spécifiques. La campagne de fouilles que vous avez réalisée à deux pas de Dunkerque, Pauline Lommel, c'est pas la première première qui a été réalisée dans cette région de polders médiévaux. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit historique de comment ces campagnes de fouilles successives se sont développées et quels étaient finalement les grands objectifs affichés?
Donc là, du coup, vraiment axé sur le littoral du Grand Dunkerquois, on va avoir des fouilles qui ont commencé dans le courant des années 2000, avec du coup la mise en avant de premiers bâtiments carolingiens, de premières zones d'habitat, de premiers polders. Alors on était sur des toutes petites zones très réduites au niveau des emprises de fouilles, qui fait que globalement on fouillait l'habitat, mais sans vraiment comprendre tout l'environnement. Après, on a commencé à développer, de fouiller des plus grands espaces. Et là, c'est vraiment du coup le développement du grand port de Dunkerque qui nous a permis de travailler sur du coup une superficie qui est énorme.
C'est une aubaine finalement là dans ces
zones. C'est une aubaine pour nous, ouais. Le fait que du coup le grand port soit très dynamique. Du coup, il y a un bel agrandissement de l'infrastructure, nous permet de mener les diagnostics. Donc là, à l'heure actuelle, on est à peu près sur 1500 hectares de zones diagnostiquées par Mathieu Lançon. Qui est du coup qui déblaye le terrain et qui nous donne toutes les clés quasiment pour faire des belles fouilles derrière. Il y a eu deux campagnes de fouilles précédentes. Donc il y a eu une campagne qui a été menée par Samuel de Souterre pour l'INRAP.
Tu avais rencontré justement Vincent Charpentier dans Carbone 14 il y a quelques années.
Exactement,
en
2023. Du coup, en 2023-2024. La société EVA qui a fait également une fouille en 2023-2024. Et donc là, nous, la nouvelle campagne 2024-2025.
2023-2024, qu'est-ce qui a été mis au jour globalement durant ces campagnes de fouilles?
Alors, du coup, ils ont principalement travaillé sur des zones d'habitat qui sont un petit peu plus tardives, donc qui vont être plus axées sur la fin du Moyen-Âge. On va être plus autour de 14e, 15e, début de l'époque moderne. C'est principalement des zones d'habitat, des restes de fermes, des vestiges de fermes déjà bien implantés qui ont été fouillés. On est sur des zones de fouilles qui ont été un peu plus conséquentes que celles qu'on a menées pendant 2 ans. On est plus autour des 10 hectares, si mon souvenir est bon. Mmh. Et donc leur rapport est également en cours de rédaction.
Une question que je me posais en préparant cette émission, c'est on parle de polders, on parle de digues, on parle d'aménagements qui sont conséquents. Est-ce qu'on a des traces matérielles évidentes de ces digues, de ces aménagements-là qui sont importants?
Alors du coup, les digues, globalement, on va retrouver les fossés. Donc en fait, une digue, il faut s'imaginer qu'ils vont creuser un fossé. Toute la terre qui va être issue du creusement du fossé va être mise sur le côté et faire une sorte de petit promontoire sur le côté. Donc au final on va pas du tout retrouver cette trace de levée de terre ou vraiment sur quelques centimètres, mais vraiment globalement on n'en a pas trop d'idées sur la hauteur de l'élévation, des choses comme ça. Par contre on va vraiment trouver les fossés sont assez intéressants parce que globalement le fait de pouvoir investiguer des grands territoires, c'est qu'on va pouvoir suivre au final ces fossés de parcelle en parcelle et essayer de déterminer justement des longueurs de digues, de fossés digues, voir jusqu'où ils s'implantaient et comment ils les ont implantés au sein de leur territoire et de l'estuaire.
Ça représente quelle superficie justement ces aménagements? Alors, c'est très important.
C'est très important, on peut être sur des centaines de mètres pour les fossés. Donc là, c'est pour ça. Donc là, c'est le travail qu'on va faire à terme avec tous les collègues. On fait un énorme travail commun. Et du coup, on va essayer de déterminer justement l'emprise totale de tous ces fossés digues. À quelle vitesse on va faire les fossés, les uns parallèles aux autres? Est-ce que du coup, l'assèchement se fait rapidement? Est-ce qu'il est long? On a beaucoup de questions.
Comment on peut déterminer justement la rapidité ou non de cet assèchement?
Eh ben justement, c'est la grande question, c'est est-ce qu'on va réussir justement à déterminer ce temps? Je pense que du coup, il faudra regarder aussi au niveau des habitats qui vont venir s'implanter derrière, qui eux-mêmes vont créer leur propre système fossoyer autour de l'habitat pour venir assécher les terrains. Donc il y a des zones où au final, on va pas du tout avoir de système fossoyer autour de l'habitat, qui permet de vraiment d'assécher définitivement le secteur. Des fois, on va juste avoir un grand fossé digue et l'habitat qui est implanté directement derrière. Donc là, on peut considérer que le terrain, globalement, s'est asséché relativement rapidement. Plus on va avancer dans l'estuaire et plus, certainement, les parcelles seront longues à s'assécher.
Je le disais, Pauline Lomel, vous avez coordonné la dernière campagne de fouilles qui a eu lieu dans cette région en 2024-2025. Comment s'organisait cette fouille? Quels étaient justement les principaux points de travail?
Donc là, on s'est organisé, on a eu, donc au final, c'était 6 fouilles. Donc on a eu 6 lots de fouilles. On a un premier lot qui est un petit peu excentré et 5 fouilles très proches les unes des autres, avec comme problématique principale vraiment l'habitat carolingien. On a travaillé sur les toutes premières implantations des sites et de comprendre au final les différents types d'habitat, de déterminer leur implantation, essayer de comprendre l'organisation globale. Et du coup, à terme, c'est d'essayer de déterminer l'organisation vraiment globale de tous ces sites par rapport les uns aux autres. essayer de définir aussi au mieux une chronologie, parce qu'on parle de la période carolingienne, mais on est sur une période relativement vaste.
C'est assez vaste, c'est fin du 8e siècle, début du 11e.
C'est ça. Globalement, on va être sur une période assez vaste, au final, qui va englober plus de 2 siècles, donc 200 ans, ce qui est énorme. On se doute bien que, du coup, pendant 200 ans, les habitats sont pas contemporains les uns des autres. Donc là, on va essayer de déterminer, de redéfinir complètement la chronologie carolingienne. Alors, la chance qu'on a eue, c'est que, du coup, on a trouvé pas mal d'éléments organiques.
Parlons de ces découvertes, quand même, parce que vous êtes là pour ça.
La grande découverte de ces fouilles, c'est du coup la mise en avant d'habitats un petit peu différents de ce qu'on connaissait habituellement sur la plaine maritime flamande. Donc ce qu'on connaît, c'est une typologie plutôt bien cadrée aujourd'hui, avec des grands bâtiments sur poteaux. Donc voilà ce qu'on retrouve des fois sur des périodes plus anciennes.
Quelle dimension à peu près
Donc on pète sur des bâtiments qui vont être autour de 100-150 mètres carrés, ce qui sont déjà plutôt conséquents. Donc des grands bâtiments plutôt dédiés à l'habitation, avec des petits bâtiments annexes pour les activités artisanales. Là, ce qu'on a mis en avant, c'est vraiment des grands bâtiments qui, pour le coup, sont excavés. Donc globalement, ils sont enterrés, ils sont semi-enterrés. Ils ont fait une grande excavation. Donc là, on est sur des bâtiments qui sont autour de 100 mètres carrés. Donc on en a trouvé 2 bâtiments d'habitation et un ensemble plutôt bien construit, vraiment organisé, avec un grand bâtiment d'habitation globalement qui fait un L, et avec 2 petits bâtiments plutôt dédiés à l'artisanat qui vont venir s'articuler et organiser tout l'espace.
Est-ce que ces habitations, ces bâtiments semi-enterrés, c'est quelque chose qu'on avait déjà découvert en France ou dans cette région, ou bien est-ce que c'est une vraie première?
Alors, en France, on n'avait jamais vu, c'est vraiment une première. Donc, ça avait été, la question avait été lancée par Mathieu Lançon, le collègue qui manait diagnostic, parce que du coup, ça a été vu une première fois en diagnostic. Justement, la question a été lancée de savoir quel est ce type de bâtiment qu'on ne connaît pas. Donc, nous, en France, c'est vraiment la grande première. Ça a déjà été fouillé en Belgique. Donc, il y a eu un site qui a été fouillé à Coxyde, qui est pas très loin de la frontière française. Voilà, pour l'instant, c'est le seul exemple qu'on est plus près. Après, il faut qu'on remonte effectivement plus vers la Hollande. Et bon, je pense que du coup, vous voyez venir. C'est...
Après, on va aller chercher les peuples nordiques.
Voilà, on va aller chercher
là,
des références.
Et donc là, ça recolle finalement avec cette idée des raids vikings, tout simplement. Et donc, on se dit qu'il y a peut-être eu des contacts, pour parler poliment, culturels, qui ont fait que ces types d'habitats typiquement nordiques se sont retrouvés à être construits finalement dans cette zone de polder.
Historiquement, on sait qu'en tous les cas, les populations nordiques sont sur place. Ça, c'est bien connu. On sait qu'il y a des raids, notamment sur le portu Quintovic, qui est un petit peu plus bas sur le littoral du nord de la France, dans la vallée de la Canche. On sait qu'historiquement, ils sont là. Il y a des raids sur l'abbaye de Saint-Bertin, qui est du coup un petit peu en recul. Donc on sait qu'ils ont navigué par l'estuaire de l'Aa, qui est vraiment voisin des zones sur lesquelles on a travaillé sur ces sites portuaires de Dunkerque. On a par exemple l'histoire du comté de Guine, qui est aujourd'hui une commune qui est en périphérie de Calais, où la personne qui met en place la lignée des comtes de Guine est Siegfried le Danois. Donc historiquement, on sait qu'ils sont là. Voilà, maintenant, on a certainement trouvé les traces de la culture matérielle. En tout cas, on sait que... En tout cas, il y a un passage, il se passe quelque chose, en tout cas, à ce niveau-là.
Est-ce qu'on arrive à dater quand ces bâtiments ont été édifiés ou pas?
Alors, c'est la grande question, c'est que pour l'instant, effectivement, on reste sur cette grande période carolingienne. On va être daté entre du 9e et du 10e siècle. Donc là, il y a beaucoup d'études qui vont être encore menées. Alors, notamment sur un des habitats où on a eu la chance de trouver du bois extrêmement bien conservé dans un milieu humide. Donc là, on va pouvoir lancer dans nos chronologies dessus et espérer avoir une datation beaucoup plus précise que la céramique qui, du coup, globalement, les céramiques de la période carolingienne vont se retrouver quasiment pendant 200 ans à être la même.
Oui, c'est moins évident, on va dire.
Voilà, c'est moins évident. On fait pas mal de datations carbone 14, mais bon, c'est toujours avec les limites, effectivement, du carbone 14, où on ne peut pas aller au-delà, des fois, de 100 ans, en final. Donc, on espère que la dendro, justement, va nous apporter un petit
plus.
La dendrochronologie. On espère qu'elle va nous apporter un petit plus et pouvoir justement resserrer la maille chronologique.
On a parlé, Pauline Lomel, de ces bâtiments, donc très impressionnants, de ces premières en France, de ces bâtiments semi-enterrés. Il y a bien sûr des éléments matériels aussi, des objets, du mobilier qui a été découvert dans le cadre de ces dernières fouilles. Quels sont ces types de mobilier-là et comment nous ramènent-ils eux aussi d'une certaine façon vers un plus grand nord?
Alors du coup, on a trouvé des petits objets réalisés avec des pattes d'animaux, ce qu'on appelle des griffes de templiers. Donc il faut s'imaginer un tout petit objet tronc conique qui fait à peu près 5-6 cm, entièrement sculpté et avec une surface plane et trois petites dents aménagées d'un côté. Donc ça ressemble un petit peu à une fourchette. C'est un petit objet assez rigolo et qui vient s'intercaler du coup dans un métier à tisser vertical. Alors j'ai envoyé des photos à tous les collègues qui s'occupe du petit mobilier à travers la France. Je tiens à remercier d'ailleurs aujourd'hui.
La solidarité.
La solidarité et qui m'ont très gentiment répondu pour me dire notamment les spécialistes du travail textile hein, sur la période du Moyen-Âge et qui m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais vu ce genre de mobilier. En menant pas mal de recherches, au final, on en a trouvé, alors du coup, beaucoup en Hollande. On a trouvé un peu en Angleterre et après, on va remonter vers l'Allemagne, la Pologne. Et évidemment, du coup, on va se retrouver vers le Danemark et toute la Scandinavie où on va retrouver ce genre de mobilier un petit peu particulier qui a priori n'est pas connu en France.
Donc c'est une première là pour le coup, voilà. À nouveau, avec voilà. ces petits objets qui sont très beaux. On partagera bien sûr une image de ces petits peignes à laine, on va dire,
oui,
je ne sais pas
ça.
Comment les nommer sur la page de l'émission. Est-ce qu'il y a d'autres objets qui ont émergé, qui ont aussi un intérêt important?
Alors au niveau du moment du diagnostic, ils ont trouvé aussi une fibule, hein, donc dans ce bâtiment excavé qu'on a fouillé par la suite, pareil qui se rapproche plutôt d'une tradition scandinave. Mm-hmm. Donc c'est une jolie fibule ronde avec du coup une forme un peu de dragon stylisé, enfin voilà, quelque chose d'assez joli qui effectivement va avoir tendance à nous ramener sur une culture matérielle plutôt des pays nordiques. Donc là, on est en train de regarder tout ce qui se passe vers le nord.
Puis il y a d'autres éléments aussi, des éléments de boucherie. On est aussi sur une zone qui était quand même très active d'un point de vue artisanal, pas que pour la laine, mais aussi pour le travail de la viande, on imagine.
Oui. Exactement. Du coup, on a énormément d'activités. On a du coup, l'activité de pêche. On est quand même en bord de mer, donc effectivement, on a une activité de pêche qui est assez conséquente, de la pêche à pied. Donc, on va chercher du coquillage. Le coquillage, on va en faire pas mal de choses. On va l'exploiter, on va le manger, on va en faire réduire en poudre pour en mettre dans la céramique, enfin dans l'argile liée à la céramique. On va faire du textile. Mmh. On va faire beaucoup de choses. On va élever les animaux. On va faire effectivement de la boucherie. On a trouvé des traces de boucherie. Alors, sur une période un tout petit peu plus récente, en fait, on va plus être sur le 11e, 12e siècle, mais on a trouvé des traces de boucherie et potentiellement de tannerie.
Des couteaux aussi, une flûte en os.
Exactement, très jolie flûte en os qu'on a trouvée justement dans ces vestiges qui seront plutôt liés autour de la tannerie et de la boucherie. Donc là, on cherche un petit peu des références sur ce bel objet.
Pour conclure, Pauline Lomel, quelles questions ça nous pose ces découvertes? C'est toujours le miracle de la science, c'est quand on trouve quelque chose, y a plein de questions qui se posent. Quelles sont ces questions-là?
Alors, il y a beaucoup de questions, effectivement, sur déjà les populations, aussi bien pour nos bâtiments qu'on connaît bien et que sur ces nouveaux bâtiments, c'est qui vit là, au final, et qu'est-ce qu'ils viennent faire comme activité de manière précise, combien de temps ont-ils vécu là, quelle importance, au final, ont-ils eu aussi sur eux, sur l'exploitation du littoral, sur la poldérisation. Donc là, on est avec plusieurs collègues, on travaille sur un PCR, le PCR polder, qui est dirigé par Mathieu Lançon, qui gère les diagnostics. Et donc, on est plusieurs archéologues à mener ce projet. Et du coup, on espère à terme avoir beaucoup, beaucoup de réponses à apporter. Et si je peux me permettre, je tiens à remercier vivement l'équipe de fouille, parce qu'effectivement, je n'ai pas réalisé cette opération toute seule. Trois responsables d'opération et une équipe qui a été jusqu'à 22 personnes.
On les salue et on vous remercie, Pauline Lomel, beaucoup. J'espère que vous aurez d'autres belles découvertes à venir nous partager ici, partager avec nous à ce micro. Et on vous dit à très bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve-Étienne Nafiteras, Bruno Sansigny, à la réalisation Hélène Trigueros. Merci à Grégory Wallon aujourd'hui à la technique et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.